C'était une victoire paradoxale, mais je crois que l'on peut parler de victoire au sujet de ce qui s'est passé il y a une semaine lors du procès Barbarin. Je pense que vous l'avez tous plus ou moins suivi à travers les médias. Au cours de la dernière journée, Monseigneur Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon, s'est approché de Monsieur François Devaux, victime du prêtre pédophile Bernard Prenat, et cofondateur de l'association La Parole Libérée. Il a passé quelques minutes avec lui et il lui a notamment dit merci, merci d'avoir porté plainte, merci pour avoir libéré la parole, merci d'avoir permis qu'un procès puisse se tenir, merci d'avoir secoué l'Église, j'ai conscience des dysfonctionnements, des difficultés, il faut que ça change. Merci, car ça ne s'arrêtera pas là. Juste après, c'était assez surprenant de voir cela, François Devaux, qui depuis des années se bat avec rage, parfois violence et agressivité contre certains membres de l'Église, non seulement a remercié l'évêque auxiliaire de ses mots, mais l'a embrassé. C'était très surprenant. L'a embrassé, oh, avec pas avec une grande chaleur, c'est normal, c'est pas le lieu, avec beaucoup de pudeur. Mais voilà, il a posé ce geste. Oui, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire de la charité, du pardon, sur la barbarie de la pédophilie. Oui, c'est une victoire. Derrière cette victoire, il y a un chef qui était discret à ce moment-là, et pour cause, il était accusé, le cardinal Barbarin. Je crois que le cardinal Barbarin s'est montré vrai chef à cette occasion, et qu'il est vraiment derrière cette victoire. Vrai chef parce qu'il a assumé ses actes, d'abord. Il a reconnu ses erreurs. Vrai chef parce qu'il est venu à ce procès, parce qu'il a pris le temps d'écouter. Vrai chef parce qu'il a défendu la vérité, il ne s'est pas laissé faire au moment où il était accusé à tort. Vrai chef parce qu'il a assumé au-delà des erreurs qu'il avait faites. Vrai chef aussi parce qu'il a su s'appuyer sur le soutien de son auxiliaire. Vrai chef, il a montré l'objectif, le but de tout détenteur d'autorité, la communion, la réconciliation, le bien des personnes. Mais pour comprendre l'action de ce vrai chef, il faut connaître le contexte complexe de cette affaire, de ces événements, depuis les premiers actes pédophiles à la fin des années 80, le contexte complexe de l'épiscopat barbarin lui-même, avec cette figure très forte qui résonne dans les médias et qui s'est notamment opposée au mariage pour tous. Le contexte complexe, social et politique de la France actuelle. Bref, sans contexte, on ne peut pas comprendre le chef. C'est à travers cela que je voudrais commencer notre rencontre de ce soir, si vous le voulez bien, une petite réflexion sur le contexte de notre société. Parce qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la réflexion hors sol, qui parlerait du chef en lui-même, le chef en soi, ça n'existe pas. Un chef est un chef d'homme, de femme, il y a une réalité sociale. Ce à quoi nous voulons réfléchir, c'est quel chef pour aujourd'hui, pour la France, ou tout au moins pour notre société occidentale. Ce sera donc ma première partie, quelques clés pour mieux percevoir les traits caractéristiques du chef dont notre monde a besoin. Et puis ensuite, nous prendrons plus de temps, je vous le rassure, pour essayer de réfléchir sur trois grandes vertus du chef. Donc, pour commencer, le contexte social avec trois clés de lecture. Pour la première lecture, la première clé de lecture, je voudrais m'appuyer sur le dernier ouvrage d'un philosophe français, parisien, phénoménologue Jean-Luc Marion, que vous connaissez peut-être, qui écrit une brève apologie pour un moment catholique. Il réfléchit sur le contexte actuel et il pense, et c'est la clé de lecture qu'il propose, que la doctrine de Friedrich Nietzsche a envahi notre univers. C'est pour lui le danger du monde présent. Le nihilisme se tient à la porte, avait averti Nietzsche. Non, aujourd'hui, écrit Marion, il ne reste pas sur le seuil. Mais depuis plus d'un siècle, il a envahi toute la maison, portes grandes ouvertes, au point de s'y installer à demeure. Nous serions donc en plein nihilisme, en pleine crise du vide de sens. Pour le montrer, Marion s'appuie sur une réalité qui fait véritablement partie de notre monde, qui me semble effectivement évidente. Je le cite. « Ce que nous appelons aujourd'hui la croissance et que nous invoquons sous ce dernier nom sacré ne concerne plus l'accroissement d'aucune chose, car ni le capital financier, ni la production économique, ni l'armement militaire, ni le développement technique n'en constituent le but. » Et réfléchissons bien, très souvent il est question de la croissance. Nos politiques gouvernent avec un souci constant de la croissance. Il faut croître, et cela dans tous les domaines. Mais cette croissance, il semble qu'elle soit devenue complètement folle, au point qu'on ne peut plus l'arrêter, qu'on est devenu ses esclaves, et qu'on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on vise la croissance. Finalement, quel est l'objectif de la croissance, du progrès, qu'il soit scientifique, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit social. Derrière se cache un spectre que Nietzsche avait annoncé il y a bien longtemps, la volonté de puissance. Cette volonté de puissance qui est bien présente dans le cœur de l'homme, et notamment dans le cœur de l'homme contemporain en Occident, ne veut rien que se démultiplier, littéralement que s'élever à la puissance. Il y a beau temps qu'elle ne veut plus rien d'étant, de réel, de précis, mais sa simple croissance, la croissance pour elle-même, sans but, car, et c'est Nietzsche qui l'écrivait, le nihilisme se définit justement par cela. Il manque le but. Il manque la réponse au pourquoi. Je crois que nous tenons vraiment un aspect de notre société. Elle grandit, elle se développe, mais il manque le but. Il manque le pourquoi. Et c'est pour cela que nous sommes perdus. Une croissance sans but, c'est la première clé de lecture que je vous propose. Deuxième clé de lecture, je voudrais m'appuyer sur un autre philosophe, français lui aussi, mais déjà décédé il y a quelques années, René Girard, lui aussi chrétien. Et pour vous aider à comprendre la clé de lecture que je vous propose, il nous faut partir du réel avec une réalité toute simple, l'uniformisation de la culture. Prêtons attention à ces quelques réalités. Que l'on soit aux États-Unis, que l'on soit en France, que l'on soit même en Chine, même dans certains pays d'Afrique, l'habillement des jeunes, les goûts pour la musique, pour la nourriture même, l'invasion des nouvelles technologies, tout cela est nivelés. Les jeunes sont tous habillés de la même manière, avec le même jean, avec les mêmes baskets, quelles que soient les latitudes. Nous sommes dans une uniformisation de la culture, une uniformisation généralisée. Tout doit être semblable. Le semblable est roi. Je parie que dans les téléphones que vous avez en poche, la plupart sont de la même marque. Je ne dirai pas laquelle. Même sur le plan anthropologique, hein, ça va loin, les différences sont de plus en plus niées. Regardez un mannequin homme, un mannequin femme, se ressemblent de plus en plus. C'est étrange, la différence sexuelle qui s'efface petit à petit. La promotion de l'homosexualité va dans ce sens aussi. Un effacement de plus en plus évident de toutes les différences. Or, selon l'enseignement de René Girard, notamment dans son ouvrage écrit en 72, hein, donc ça fait un certain temps, pourtant, La violence et le sacré, cette situation est loin d'être anodine. Il a repéré, à travers l'art et la littérature dans de très nombreuses civilisations, un enchaînement social récurrent qui va d'un effacement des différences à une explosion de la violence. Et oui, si tout le monde se ressemble, si les identités sont dissolues dans un grand tout, un déluge qui liquéfie toute chose transformant l'univers solide en une espèce de bouillie, dit Girard, eh bien la vie va se révolter d'une certaine manière, pour subsister. Et donc, on va arriver à la violence. Et puis la vie va croître de manière ingérable. Elle va se déployer dans l'anarchie, laissée à elle-même, et donc on va aboutir à la violence. Ce lien de cause à effet me semble très important. La dissolution des identités dans le semblable roi nous mène à la violence. On ne sait plus qui on est, donc on se débat. Je crois que ces deux phénomènes et l'enchaînement des deux est bien présent dans notre société. C'est donc la deuxième clé de lecture. La troisième clé de lecture, je m'appuie simplement sur le bon sens. Combien d'entre vous présents ce soir ont un téléphone portable allumé sur vibreur dans la poche? Je crois que la plupart d'entre vous. Et c'est normal. Parce que notre société fonctionne ainsi. Nous avons tous, enfin vous avez tous, plus précisément, Internet branché soit dans vos sacs, soit dans vos poches. Et c'est un petit appareil d'ailleurs assez étonnant, parce qu'il fait plein de choses. Agenda, réveil, téléphone, GPS, appareil photo, connexion Internet. Petit engin très pratique, très utile. Il ne faut pas le diaboliser. Je crois qu'il y a des bonnes choses. Mais il y a un corollaire qui transforme notre monde. Une des conséquences les plus évidentes, les plus importantes, les plus fortes de la diffusion de cet outil, et donc d'Internet, c'est que nous sommes passés à une société du temps court. Internet, l'outil primordial de notre société, est d'efficacité immédiate. Tout ce que vous voulez comme information, vous pouvez l'avoir en quelques secondes. Tout s'accélère. Le général de Villiers lui-même le constate. Ce temps qui court est bref. Il l'emporte systématiquement sur le temps long et ses horizons lointains. Tout nous tire vers l'immédiateté. Un monde qui va très vite, qui va trop vite. C'est la troisième clé de lecture que je vous propose. Je récapitule ces trois clés de lecture. Notre société a perdu sa finalité, étant polarisée par l'obsession, plus ou moins consciente, d'une croissance surpuissante et non identifiée. Elle est en proie à une dissolution des identités, d'où la crise identitaire que l'on traverse. Il ne faut pas diaboliser ces mouvements identitaires ou populistes, parce qu'ils sont simplement en train d'essayer de se débattre dans ce vide de sens et cette dissolution des identités. Le tout émerge dans une grande violence et tout va très vite, donc on ne contrôle plus. Excusez-moi de dresser un portrait un petit peu sombre. Il ne faut pas s'en arrêter là, mais il fallait... dresser l'état des lieux pour répondre à la question: quel est le chef, quels sont les chefs, quelles sont les qualités dont ces chefs auraient besoin pour nous faire avancer dans cette situation-là concrète. Alors, J'en viens à ma deuxième partie, les trois grandes vertus du chef, ou trois grandes vertus du chef, parce que je ne vais pas pouvoir parler de toutes les vertus du chef. Vous savez qu'on pourrait évoquer beaucoup de sujets. En introduction, certains sujets ont été évoqués. Je ne les reprendrai pas tous. Je voudrais simplement garder trois idées. Et pour commencer la première idée, il faut que je vous raconte une histoire. Alors, il n'y a pas d'enfant, mais je vais quand même vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, j'étais nouveau dans une des communautés de notre province. Je venais d'arriver. On commençait un nouveau mandat, donc tout le monde était un peu neuf. C'était au Broussé, à côté de Bordeaux. Et puis, on essayait de se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait relancer l'activité de la communauté et notamment l'activité de notre hôtellerie, parce qu'on a une grosse hôtellerie dans cette communauté. Et on ne savait pas s'il fallait effectivement relancer avec force, avec enthousiasme, mettre le paquet, ou s'il fallait y aller doucement. Les premiers échos que j'avais eus, parce que le père prieur m'avait demandé de réfléchir un peu à cette question pour lancer la réflexion, j'avais demandé aux frères qui nous avaient précédés qu'est-ce qu'ils pensaient. Eux disaient plutôt « Oh, attention, il faut aller doucement ». Aller doucement parce que l'hôtellerie, elle se développe très vite et elle va vous demander très vite beaucoup de travail. Alors j'ai essayé comme ça de faire un petit peu un travail d'audit en fait sur notre hôtellerie. Et puis un jour, je suis allé à une manif pour tous à Bordeaux et je suis tombé sur un monsieur très gentil avec lequel j'ai commencé à parler. Je ne le connaissais pas, il s'est approché de moi parce que j'étais en habit. Et puis on a commencé à échanger, notamment sur son activité professionnelle. Il se trouve que ce monsieur faisait de l'audit. Alors, je lui ai proposé de jeter un œil à nos dossiers et puis de nous dire ce qu'il pensait. Il a accepté et sa lecture a été très intéressante. Il nous a dit, avec vous, religieux, je m'attendais à ce que soit surtout privilégiée la question du sens, de la finalité, la dimension verticale, qui répond à la question « Pourquoi voulons-nous faire cela ?» Mais vous avez pas du tout, vous n'êtes pas du tout parti dans ce sens-là, bien au contraire, vous êtes sur la question « Comment est-ce que nous allons agir ?» La question verticale, horizontale, pardon. La question horizontale. Vous ne vous posez pas la question du sens, vous essayez tout de suite de répondre à la question des moyens, mais vous vous trompez. Il faut reprendre les choses à l'inverse. Posez-vous la question du pourquoi. Commencez par la question du sens. Privilégiez cette dimension verticale. Et vous verrez qu'ensuite, la dimension horizontale, la question des moyens, elle se mettra en place quasiment d'elle-même. Ça sera logique. J'avoue que j'étais un petit peu dépité par ce conseil. Et puis on en a parlé en communauté, et là, c'est le père prieur qui l'a compris et qui a dit « mais il a raison ». Il faut d'abord se poser la question « pourquoi est-ce que nous voulons faire vivre le Broussé ? Quel est notre objectif ? Nous sommes rassemblés pour vivre de notre charisme et le partager à tous ceux qui viendront nous voir. Et donc, le centre de notre vie, ça doit être l'hôtellerie. Donc, il faut mettre le paquet. Donc, il a doublé le nombre de frères qui étaient investis à l'hôtellerie, et la communauté a vécu comme une petite résurrection, qui vous semble peut-être évidente, mais vu le nombre de frères qu'on avait de disponibles, ce n'était pas du tout évident. Il fallait faire le choix de privilégier l'hôtellerie à toutes les activités extérieures. Et pour ça, il fallait d'abord se poser la question du sens, la question de la finalité, la question de l'objectif à atteindre. Notre conseil en audit nous a en fait rappelé un principe théologique fondamental que nous connaissions, mais que nous n'appliquions pas. Le principe de finalité, qui est essentiel dans toute la théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors je prends la suite d'un dominicain, et en plus, quel dominicain, provincial de surcroît, depuis peu. Mais j'oserais quand même évoquer ce principe, le principe de finalité. Il est vraiment très important. Marie-Joseph Nicolas, le père Marie-Joseph Nicolas, reprenant l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, écrit « La fin est ce qui détermine le mouvement d'un être. Elle est au principe de l'action. La finalité. Il faut absolument déterminer la finalité. Tout commence, si l'on peut dire, par la détermination de la fin. Tout commence par la fin. Si vous savez où aller, vous trouverez comment y aller. Tout commence par la fin. C'est ce que décrit le général Pierre de Villiers dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'un chef ?» Avec le vocabulaire qui lui est propre, il faut privilégier d'abord la stratégie pour adapter ensuite la tactique. Le militaire, il parle avec des outils militaires. La stratégie, la dimension verticale, détermine la vision et l'état final recherché. Elle résout la question « quoi ?». La tactique, elle vient après. Elle procure les moyens d'atteindre l'objectif en répondant à la question « comment ?». Vous imaginez bien que ce qui requiert le plus d'énergie, le plus de patience, le plus de temps, ce qui doit être ciselé avec attention, ce n'est pas la question des moyens, c'est la question de la finalité. Il faut d'abord et fondamentalement se poser la question du pourquoi. Toute entreprise humaine doit s'inscrire dans une stratégie claire, compréhensible et incarnée dans le quotidien, écrit encore le général de Villiers, au risque de ne pas être comprise ou d'être mal interprétée. Pour susciter l'adhésion, il faut absolument des grands desseins qui donnent du sens au travers d'un projet, mais avant tout une vision commune, fédératrice et attractive. Au cœur de cette vision, chaque femme et chaque homme composant la communauté doit trouver son compte individuellement et collectivement. Pour mettre en mouvement des hommes, des femmes, une équipe, un pays, il faut un projet, il faut un bien véritable et objectif. C'est cela qui nous fait bouger, c'est le bien qui fait bouger l'homme. C'est le bien, c'est le vrai, c'est le beau, c'est l'unité. C'est cela qui peut faire bouger. Et c'est cela le rôle du chef. De montrer quel est le bien, de s'y attacher fermement et d'investir toutes les forces de son équipe pour l'obtenir. Or, derrière le vrai, le beau, le bien, se cache leur créateur. Toujours. Ce créateur qui les réalise dans son être à la perfection, lui qui est le bien par excellence, lui qui est la vérité même, Dieu. Lorsqu'on s'oriente vers le bien, c'est vers lui qu'on se tourne. Ce que le chef athée ou agnostique ne sait pas, le chef chrétien en a conscience. Ses subordonnés, lorsqu'ils les orientent vers le bien, si simple, si concret soit ce bien, c'est vers le bien par excellence qu'il les oriente. Il les conduit au bien souverain qu'est Dieu. Agir ainsi, conduire les personnes à la vérité, à la bonté, à la beauté, c'est les mener à leur propre perfection et c'est les mener à Dieu. Je crois que c'est un des grands problèmes de notre société nihiliste qui a proclamé la mort de Dieu. Il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus d'objectif. D'où le fait que les gens sont si perdus. Supprimer la finalité par excellence qu'est Dieu, supprimer les grands objectifs d'une vie d'homme, et la vie est privée de sens. Au contraire, retrouver la logique de la finalité, polarisée par la fin dernière, et la société peut retrouver sa marche, presque naturellement. L'homme est fait comme cela. Il faut donc que le chef sache où il va et pourquoi il y va. Et plus cette certitude sera profonde, plus ses hommes le suivront. Le général de Villiers, pourtant discret sur sa foi chrétienne, évoque ouvertement ce point dans son ouvrage, l'ouverture à la transcendance. Oui, le chef doit être ouvert à la transcendance. Non pas qu'il doive parler de sa foi à tout vent et dire ce qu'il vit le dimanche matin, mais il doit avoir cet ancrage de fond. C'est comme ça que le Christ a agi. C'est comme ça que le Christ a entraîné ses hommes. L'évangile peut être ouvert à n'importe quelle page. Toutes portent le sceau de la finalité. Dès le début de la vie du Christ, on voit que le Christ a une orientation. On voit qu'il sait où il va. On voit qu'il sait où ses pas vont le mener. Dès le début. Dès l'épisode du recouvrement au temple, dans le chapitre 2 de Saint Luc. Souvenez-vous, Jésus, 12 ans, est allé avec ses parents au temple. Et puis, en partant, ses parents pensent qu'il est avec des amis. Et puis, ils ne le retrouvent pas. Ils mettent 3 jours à le retrouver. Qu'est-ce que Jésus leur dit quand il le retrouve ? Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? Voilà le sens. Être là avec son père. Être là pour accomplir l'œuvre du père. Et c'est comme cela d'ailleurs qu'il a formé ses apôtres, en leur dressant le sens de sa mission. Au début de leur formation, il les éduque en témoignant de l'importance de cette orientation fondamentale, à tel point qu'il dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin, sa nourriture, chaque jour. Se poser la question, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu ? Rappelez-vous ce que Jésus dit à Pierre qui veut le détourner de sa mission. Jésus vient d'annoncer qu'il allait devoir mourir, être tué par les prêtres, mais que 3 jours après il ressuscitera. Pierre lui dit « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Et se retournant, Jésus dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tu veux me détourner de mon objectif, tu veux me détourner de la finalité de ma vie, de mon existence, de ma mission. Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Au fond, est-ce qu'une vie chrétienne, ce n'est pas cela ? Une vie polarisée par le bien, une vie orientée vers Dieu, orientée vers le ciel. Rappelons-nous la promesse du Christ, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est donc la première vertu du chef, indiquer la finalité. Deuxième vertu, le principe de subsidiarité. Lorsque la finalité, lorsque la dimension verticale, lorsque la réponse à la question du sens est donnée, eh bien, il faut encore mettre en œuvre cela, cette orientation, dans des actes concrets. C'est vrai pour une personne donnée, elle choisit sa fin, et ensuite elle trouve les moyens pour la rejoindre. Ça l'est pour un groupe, ça l'est pour un pays. Pour cela, il faut respecter certains principes concrets. La plupart sont des principes de bon sens. L'un d'entre eux a fait l'objet de beaucoup d'études dans l'Église catholique, vous le savez peut-être, qui lui accorde une importance particulière, c'est le principe de subsidiarité. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au numéro 186, explique ce qu'est le principe de subsidiarité. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer au groupement d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Petit texte un petit peu complexe, en fait, le fond est très simple. L'objectif de ce principe est que, dans la société, le plus petit soit toujours protégé. Ce que le plus petit est capable de faire, il est du devoir du chef de lui laisser la possibilité de le faire, de lui garantir même la possibilité de le faire. Si le chef réalise à la place du plus petit parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ce que le plus petit était chargé de faire, il va l'empêcher de participer à l'œuvre commune. Il va le déresponsabiliser. Il va l'empêcher d'accomplir ses propres potentialités. Il va nier sa dignité. Alors il faut que le plus petit soit protégé. Pour vous donner un exemple, moi qui suis un plus petit dans ma communauté, mon père prieur m'a chargé de la liturgie, du chant liturgique. Et donc c'est moi qui organise le chant liturgique. Et lorsque on fait une classe de scola, lui, il suit comme les autres frères. Mais il ne me reprend pas devant les autres frères. Il ne m'indique pas tout ce que je dois faire pas à pas. Il peut me donner des grandes orientations parce qu'il est le chef, mais il respecte le plus petit dans la mission qu'il lui a confiée. Et si le plus petit se plante, ben il assume avec lui et il l'aide à se relever. Le général de Villiers, dans son langage militaire, peut-être plus concret, plus simple, écrit cela. La confiance dans le subordonné est particulièrement féconde. On a pris l'habitude de lui donner le nom savant de subsidiarité. Mais au fond, il ne change rien. La confiance est une et indivisible. La confiance est une vertu vivante. Elle doit être nourrie jour après jour pour faire naître l'obéissance active, où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Elle naît, la confiance, puis s'entretient à partir de la vision du chef qui éclaire, rassure, conforte, fixe le cap. Le militaire nous montre bien qu'il s'agit en fait d'une simple question de bon sens. Pour lui, le lien logique qui part de la détermination de la finalité, le cap, et qui aboutit à l'entraînement de toute l'équipe, relève non seulement de l'expérience, mais de l'évidence. Principe de subsidiarité. Or, vous sentez peut-être que derrière ce principe de subsidiarité, il y a un soubassement essentiel qu'il ne faut jamais oublier et qui est l'un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est le respect de la dignité de toute personne humaine, à commencer par le plus petit. Le respect de la dignité de toute personne humaine. Et la doctrine sociale de l'Église insiste pour dire que ce respect de la dignité de toute personne humaine est la finalité de toute société. La finalité, c'est la promotion de la personne humaine. Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Celle-ci représente la fin dernière de la société qui lui est ordonnée. Il faut donc considérer que chacun est capable d'apporter un bien véritable à la société et que c'est comme cela seulement, en offrant à chacun la possibilité de s'investir pour la société, que l'on pourra obtenir la cohésion du groupe. Cela suppose de s'intéresser à chacun. Et c'est le rôle du chef, de s'intéresser à chacun, d'attribuer à chaque individu ce qu'il est capable de mettre en œuvre. Pour cela, il faut que le chef ordonne, qu'il différencie, qu'il refuse la logique du semblable, que chacun ait sa mission propre. Il faut qu'il estime les qualités et les potentialités des personnes avec lesquelles il travaille. Il faut qu'il connaisse ces hommes, ces femmes, il faut qu'ils soient à l'écoute, disponibles, à l'affût de ce qui pourra aider à mieux comprendre. Cela requiert un chef ouvert, humain. Ce dont il est question ici, et le général de Villiers le souligne à l'envi, c'est de l'humanité du chef. La subsidiarité, la mise en œuvre de la subsidiarité, exige un chef humain. Cette capacité à discerner l'humeur de la personne à travers simplement le ton qu'elle emploie ou les regards échangés. Cela n'entre pas dans les tableaux mesurant la performance, mais c'est essentiel. C'est comme cela qu'un groupe peut avancer. Et le général développe un thème très beau et très intéressant, la question de l'obéissance d'amitié. Vos subordonnés ne vont pas vous obéir parce que vous aurez une autorité implacable, parce que vous serez sévère, parce que vous serez exigeant, ou parce que vous leur donnerez un bon salaire à la fin du mois. Non, la meilleure manière de faire avancer et obéir, c'est l'amitié. L'obéissance d'amitié. Le chef humain, attentif, ouvert, disponible. Ce chef humain, il va faire grandir ses subordonnés du plus petit au plus grand. Et c'est le sens même du mot « autorité ». Le général écrit « Le mot « autorité » vient du latin « auctoritas » et se rattache par sa racine au même groupe que « augere », augmenter, « augure », celui qui accroît l'autorité d'un acte par l'examen favorable des oiseaux, « augustus », celui qui renforce par son charisme. Cette idée d'augmentation dans l'autorité est fondamentale. L'autorité ne fait pas subir une quelconque chape de plomb sur les subordonnés, mais au contraire, elle élève, elle améliore, elle augmente, elle renforce. Parler avec autorité suscite la confiance et l'espérance. C'est le langage des grands chefs. S'imposer en écrasant les autres est la marque des petits chefs. Et vous avez bien compris que le but, c'est d'être un grand chef. C'est comme ça que le Christ a agi, là encore, tout particulièrement dans le groupe des 12. On pourrait invoquer plusieurs passages pour montrer que le Christ a agi en appliquant ce principe de subsidiarité. Il y a par exemple des événements que nous connaissons bien qui sont très symboliques, la multiplication des pains, les nombreuses multiplications des pains qu'il y a dans les évangiles. C'est bien le Seigneur qui réunit les quelques provisions disponibles, généralement quelques petits pains et quelques petits poissons. C'est bien lui qui prononce la bénédiction, c'est bien lui qui multiplie, mais au moment de distribuer, il les confie aux apôtres. Ce que les apôtres peuvent faire, il le leur fait faire. Il leur confie cette tâche. Voyons aussi dans la relation avec saint Pierre. On voit bien que Jésus prend le soin de préparer ce futur leader. Il a tout de suite senti, chef attentif, chef disponible, capacité de discernement, il a tout de suite senti que Simon serait le futur chef. À peine il l'a regardé, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Et ensuite, pendant tout leur cheminement commun, il va mettre un soin particulier à mettre Pierre en avant, à montrer que c'est Pierre qui a le bon discernement, à montrer que c'est Pierre qui a le courage de dire les bonnes choses au bon moment, et finalement à lui dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Voilà un subordonné qui est mis en valeur. Un subordonné qui, du coup, trouve de la confiance en lui-même. Et même après la trahison, le subordonné s'est planté, mais Jésus lui fait encore confiance. Jésus le relève. Il en fait un chef. Il le responsabilise, en lui permettant de donner ce qu'il y a en lui de plus grand et de plus beau. Enfin, il suffit d'ouvrir les évangiles pour voir combien Jésus a la capacité de faire grandir les personnes par son simple regard. Voilà un chef. Il profite de chaque rencontre, particulièrement avec les plus pauvres, mais aussi avec des personnages un peu énigmatiques comme Zachée, pour les relever, pour leur donner confiance, pour les mettre en valeur, pour leur montrer leur propre dignité. Voilà le chef. Troisième vertu. Vous me direz peut-être, fixer la finalité, respecter la subsidiarité, finalement, c'est pas bien compliqué. Adjoindre à chacun la tâche qu'il pourra supporter, c'est faisable. Et pourtant, ils sont nombreux les chefs qui se plantent aujourd'hui. Je ne donnerai pas de nom. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Il manque quelque chose. Mais la troisième vertu que je voudrais développer dans le temps qui me reste, je voudrais essayer de montrer peut-être où est la plus grande difficulté aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai mis du temps à comprendre pourquoi le binôme finalité-subsidiarité ne suffit pas. Et c'est la question du temps qui m'a mis sur la piste. Vous vous souvenez que c'est la troisième clé de lecture de notre société, hein, une société qui va trop vite. C'est le troisième défi lancé au chef. Le général de Villiers l'évoque à plusieurs reprises dans son livre. Il est clair que nous sommes dans une civilisation du temps court qui nous tire vers l'immédiateté. Il montre bien que dans son agenda, plusieurs fois, il a constaté qu'il avait à peine le temps pour faire telle ou telle activité et qu'il a fini par comprendre que s'il fonctionnait comme cela, il ne donnerait pas de place, pas suffisamment de place aux événements et aux personnes. Et donc, il a réfléchi à l'envers, en posant la question à ses subordonnés, à ses aides de camp, « J'ai besoin de combien de temps pour cette rencontre ?» On va partir de là. Et puis ensuite, on construira l'emploi du temps. C'est très intéressant, hein, parce qu'il a inversé. La question, ce n'est pas « Combien de temps j'ai pour toi ?» La question, c'est « Combien de temps, toi, tu as besoin que je te consacre ?» Reprendre la maîtrise de l'agenda. Il le dit dans tout son livre. Reprendre la maîtrise de l'agenda. Derrière, il y a une clé pour nous. Lorsqu'on se laisse emporter par l'activisme, lorsqu'on enchaîne les rendez-vous, les tâches à accomplir, alors petit à petit, le rythme s'accélère. Je pense qu'on le sent, on a tous un peu senti ça. On est un peu grisé par la vitesse. On commence à se sentir efficace, peut-être un peu invulnérable, voire tout puissant. L'émotion qui accompagne cette surchauffe, elle peut être assez agréable en fait. On peut devenir esclave de cette logique et rester dans cette efficacité de l'immédiateté. On est immédiatement efficace. On arrive à faire un nombre de choses pas possibles. On avance comme une fusée. Il y a derrière un sentiment de toute puissance qui risque de devenir la règle. On en voit tellement des gens qui courent comme ça. Tellement. Derrière, le général de Villiers insiste, le chef ne doit pas se laisser dominer par ses émotions, par ce désir de toute puissance, ce désir de rapidité, d'efficacité à tout prix. Il est impératif que le chef prenne du recul pour bien évaluer les diverses situations, pour prendre les bonnes décisions. Il doit garder son esprit libre et indépendant, diriger sans chercher de satisfaction immédiate, ni même celle légitime pourtant d'être aimé. Ni même celle légitime pourtant d'être aimé. Il faut qu'il reste maître de lui-même, notamment quand les ennuis s'accumulent. Il faut qu'il ait cet équilibre de fond qui le dresse au-dessus du stade où tout le monde s'affronte à une vitesse pas possible. Quand un être charismatique, un vrai chef, entre dans une pièce, tout s'y ordonne autour de lui. Il projette quelque chose qui est reçu par autrui, mais c'est aussi quelqu'un qui reçoit lui-même les signaux émis par les autres. La sympathie qu'il inspire fait pendant à son empathie, l'une comme l'autre parfaitement maîtrisée, dans cet équilibre qu'il est possible d'appeler l'autorité. Au fondement de ce charisme, il y a la confiance en soi et le souci des autres. Il s'agit d'une mystérieuse alchimie qui ne doit pas grand-chose aux qualités physiques. Maîtrise de soi. La vertu qui se cache derrière ces conseils n'est pas à la mode, et d'ailleurs, le général n'emploie jamais le mot. C'est une vertu qui va à l'encontre de la logique du temps court, qui est la marque de notre société. Cette vertu s'oppose aussi à une certaine éthique qui proclame qu'aucun plaisir ne doit être freiné, qu'aucune satisfaction ne doit être différée. Et oui, cette vertu, elle est très gênante, parce que elle nous demande de différer la satisfaction. Différer la satisfaction. De réguler l'émotion. De considérer que l'autre est premier. De ne pas l'emprisonner dans l'expression de nos sentiments. C'est la maîtrise de soi, mais c'est plus encore que la maîtrise de soi. Cette vertu qui est nécessaire au chef et si difficile à vivre aujourd'hui, c'est la chasteté.
Peut-être que vous êtes déçus, là.
C'est la chasteté. À tout chef. Pas seulement à ceux qui sont religieux. C'est la chasteté. La chasteté, vous le savez, hein, mais je me permets d'insister. Ce n'est pas l'absence de sexualité, ni d'activité génitale. La chasteté, c'est bien plus qu'une question de sexualité. C'est un des trois conseils évangéliques, avec la pauvreté et l'obéissance, que tous les chrétiens sont invités à vivre. C'est une orientation positive donnée pour la vie. Elle doit donc être définie positivement, cette chasteté. Celui qui est chaste, c'est celui qui aime l'autre pour lui-même, choisissant de faire passer le bonheur de l'autre avant le sien, le laissant répondre comme il veut, quand il veut, sans rien exiger. Être chaste, proclame le Yucat, c'est aimer d'un amour sans partage. Celui qui n'est pas chaste est tiraillé et esclave de ses passions. L'amour chaste libère, l'absence de chasteté dans la relation enferme. Le chef qui n'est pas chaste, et nous en connaissons tous malheureusement des exemples, impose à tous ses émotions, qui deviennent vite des caprices. Il crée une cour autour de lui, il s'impose par l'expression de sa colère, ses moindres désirs deviennent des exigences. Il ne laisse aucune place à ses subordonnés, moins encore aux plus petits. Il pose des choix, souvent erronés finalement, fondés sur ses préférences du moment, ses préférences affectives. Il devient instable et irrégulier. La chasteté est une nécessité. Le chef véritablement chaste, vous me voyez venir, c'est le Christ. Le chef parfaitement chaste. Pas si facile que ça de trouver un passage de l'Évangile qui permet de voir cela. On voit le Christ chaste dans bien des domaines, bien des rencontres, notamment avec Marie-Madeleine en sortant du tombeau après la résurrection, ne me touche pas. Mais le Christ chef chaste, c'est plus dur à trouver. Je l'ai trouvé dans le chapitre 10 de Saint-Luc. Vous connaissez ce passage, le Seigneur a désigné 72 disciples. Il les envoie deux par deux en avant, dans des villes, dans tout endroit où il aurait lui-même voulu aller. Il leur dit « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et puis les 72, après leur mission, reviennent tout joyeux. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le ciel. » À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Le Christ a envoyé ses disciples. Il les laisse partir. Il les laisse agir. Il ne garde pas le contrôle sur ce qui va se passer. Il les laisse libres. À leur retour, il se réjouit avec eux. Il leur confirme qu'ils ont réussi leur mission. Il se réjouit avec eux, dans la simplicité. Le chef qui accueille au retour, ses subordonnés. Et puis, sans attendre, ils réorientent leur regard. Ne vous réjouissez pas de ce que Les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le but, c'est qu'ils ne restent pas braqués simplement sur leurs propres exploits. Il leur indique de nouveau la finalité, les cieux. Et enfin, il tourne son regard vers les petits, vers les bénis du Père. Le chef est attentif aux petits. Peut-être que vous avez reconnu dans ce passage, en fait, les trois vertus. Les trois vertus du chef sont présentes. Bien sûr, on pourrait développer bien d'autres considérations sur un leadership chrétien, mais il me semble que ces éléments répondent au contexte dans lequel nous vivons. L'indication claire des buts poursuivis, c'est la première réponse qui est apportée au nihilisme généralisé qui gangrène notre société. Indiquer les buts clairs, orienter les personnes vers la finalité première de ce qu'ils ont à accomplir, la finalité seconde, le bien du groupe, la communion du groupe, la première des grandes finalités, la dignité de la personne, et puis, si possible, la finalité par excellence qu'est Dieu, si seulement les chefs nous orientaient dans le bon sens. La subsidiarité effective, elle permet de remettre de l'ordre, d'éviter la confusion, d'éviter la violence, où chacun peut trouver sa place. Et la chasteté, enfin. Vraie réponse, je crois, à la tentation très moderne de céder aux émotions de l'immédiateté qui empêchent de prendre le recul nécessaire, qui empêchent de gouverner, qui empêchent de discerner. Ces trois vertus, le Christ, j'ai essayé de le montrer, les a vécues, les a réalisées. Il n'est pas seulement un exemple parmi d'autres, il est l'exemple par excellence. C'est lui qui a su préparer ces 12 pauvres, ces 12 disciples qui ont fondé l'Église. C'est vers lui que je vous propose de nous tourner pour terminer cette rencontre, cette conférence avec la prière des chefs, l'une des plus belles prières scouts, que je vous propose de reprendre tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, qui malgré ma faiblesse m'a choisi pour chef et gardien de mes frères, fais que ma parole et mes exemples conduisent leur marche au sentier de ta loi. Que je sache leur montrer tes traces divines dans la nature que tu as créée, leur enseigner ce que je dois, et les conduire d'étape en étape jusqu'à toi, ô mon Dieu, dans le camp de repos et de joie, où tu as dressé ta tente et la nôtre pour toute l'éternité. Amen. Je vous remercie.